Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonjour à tous, vous allez bien? J'espère que vous êtes toujours en bonne santé et que vous êtes toujours fidèles à notre émission quotidienne de la Voix de l'Indonésie en langue française. Avec moi ce soir, Yubi Suryanto, et on va être ensemble pendant une heure aujourd'hui, jeudi 27 octobre 2016. Il est 3h du matin du temps à Jakarta. Les auditeurs et auditrices, ce soir le programme commencera par le journal, suivi du commentaire. Aujourd'hui dans l'histoire, la mise au point, et puis on vous présente le rappel de l'actualité. Et puis on vous propose la rubrique hebdomadaire qui sera cette semaine sur le magazine culturel et suivi par l'Indonésie en couleur. Nous finirons notre émission, la rubrique distraction, c'est-à-dire la couleur de la musique indonésienne. Je laisse la parole à mon ami qui va vous présenter le bulletin d'information.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec le titre. La valeur d'investissement de la République d'Indonésie en 2016 a augmenté par rapport à celle en 2015. L'Indonésie et l'Australie renforcent les relations militaires dans un 2+2. 13 petites îles extérieures sont développées par le président Joko Widodo et le vice-président Yusuf Kalla en 2 ans. 15 entreprises de défense américaines participent à Indo Defense 2016, y compris Lockheed. Je termine en présentant maintenant le journal complet. La valeur d'investissement indonésienne flambé de 106 en 2015. Jusqu'à 91 en 2016. Cette augmentation a brisé le record du monde parce qu'il n'y a aucun pays dans le monde en un an pouvait dépasser 15 niveaux. Cela a été déclaré par le chef du Conseil de coordination des investissements, ou BKPM, M. Thomas Lembong, dans le communiqué de presse jeudi à Jakarta sur la réalisation d'investissements du troisième trimestre depuis juillet jusqu'à septembre 2016. Mais selon Thomas Lembong, le président Joko Widodo n'est pas satisfait de cette augmentation parce que l'Indonésie est le grand pays. Thomas Lembong a déclaré que l'Indonésie devait travailler plus fort pour que la valeur de l'investissement de l'Indonésie puisse plus progresser significativement. La réalisation de l'investissement en Indonésie de janvier jusqu'à septembre 2016 atteint 453,4 trillions rupiah et a augmenté de 13,4% par rapport à la même période en 2015. Et la réalisation des investissements étrangers en hausse de 10,6% ou 295,2 trillions rupiah. L'augmentation de la réalisation des investissements de janvier jusqu'à septembre 2016 a eu un impact positif sur l'absorption des main-d'œuvre de 960 041 personnes. Le ministre indonésien de la Défense, M. Riamizar Riakudu, a déclaré que l'Indonésie et l'Australie voulaient renforcer les relations militaires dans une réunion 2+2 à Bali le vendredi. Il a déclaré à Jakarta jeudi que le ministère de la Défense de l'Australie lui a invité à visiter la base militaire dans la ville de Darwin pour démontrer l'ouverture de l'armée de chaque pays. Selon Ria Mizar-Triakudu, il va discuter avec l'Australie sur la question des pays qui soutiennent la Papouasie de se séparer afin de ne pas interférer les uns avec les autres. Il ne refuse pas si l'Australie invite à faire des exercices militaires conjointes pour anticiper les menaces de sécurité dans la région et dans le monde. La Russie a également mené des discussions avec la Malaisie et les Philippines afin de faire face à la menace qui pourrait survenir dans la mer de Sulu. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le gouvernement de Joko Widodo et Yusuf Kalla a déclaré son engagement à développer l'Indonésie à partir de la périphérie. L'engagement est montré avec le programme de développement Les îles les plus extérieures. Le ministre de l'Intérieur, M. Cahyokumolo, a déclaré à Jakarta jeudi, au cours des deux dernières années, il y avait 13 petites îles à l'extérieur qui sont déjà développées. Selon lui, avec le développement des îles extérieures, l'Indonésie comme un État unitaire est vraiment capable de se connecter à partir de l'extrémité ouest à l'est et du nord au sud. L'attaché de presse de l'ambassade américaine en Indonésie, John Johnson, a déclaré qu'environ 15 entreprises et les entrepreneurs américains participeront au forum et à l'exposition de la défense indonésienne qui aura lieu de 2 au 5 novembre. John Johnson a déclaré jeudi à Jakarta qu'il y aurait un exercice militaire conjoint entre l'Indonésie et les États-Unis la semaine prochaine à Manado. Ce sont les premiers exercices de la force aérienne conjointe entre les deux pays. L'Indonésie et les États-Unis vont voler l'avion F-16 ensemble. Les États-Unis apporteront le F-16 et F-18 dans l'exercice. Selon John Johnson, un navire militaire américain ne prendra pas de navire de guerre à la visite et l'exercice militaire conjoint en Indonésie. Le directeur de la technologie et de l'industrie de la défense du ministère de la Défense, le général de brigade Jean-Pierre Athé, a déclaré que 844 entreprises nationales et étrangères participeront à cette activité. Et 573 entreprises étrangères ont confirmé leur présence. 271 sont les entreprises indonésiennes. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Chers amis, nous continuons notre émission ce soir avec le commentaire et un titre. Est-ce que les États-Unis vont mettre fin à l'embargo économique contre Cuba? Après avoir décennié d'avoir strictement fait l'embargo contre Cuba, l'attitude des États-Unis a finalement cédé. Pour la première fois dans 24 ans, les États-Unis se sont abstenus lors du vote dans la séance annuelle de l'ONU liée à la résolution pour mettre fin à l'embargo contre cet État socialiste. La décision de s'abstenir a été faite dans les dernières semaines de l'administration du président Barack Obama. Le signe de changement dans l'attitude est manifesté par l'amélioration des relations diplomatiques entre Washington et La Havane l'an dernier. La décision de s'abstenir à l'Assemblée générale des Nations Unies, comme l'a déclaré l'ambassadeur américain à l'ONU, Samantha Power, montre que Washington modifie sa politique et stratégie d'isolement d'un pays donné. La décision qui était prise au dernier moment de l'administration de Barack Obama et avant l'élection présidentielle la semaine prochaine est susceptible de changer en arrière quand le républicain gagne une élection et devient président. À noter, en fait, le Parti républicain a insisté pour que les États-Unis continuent à soutenir et à faire respecter l'embargo économique contre Cuba. L'attitude qui a été montrée quand Obama améliore des relations diplomatiques avec le gouvernement de la Havane. Les sénateurs du Républicain rejettent fermement et dénoncent la nouvelle politique d'Obama. À la fin de la campagne présidentielle, c'est susceptible que cette abstention sera l'un des nouveaux sujets de Donald Trump. Les efforts pour mettre fin à l'embargo contre Cuba étaient en fait effectués depuis 1992. Le gouvernement de la Havane, chaque année, utilise la séance de l'Assemblée générale des Nations unies en tant que scène politique. En tout cas, les efforts de la Havane montrent les résultats. Cette année, 191 pays ont soutenu l'annulation de l'embargo économique qui dure depuis 56 ans. Sur la scène des Nations Unies, cette année seulement l'Israël qui a suivi Washington de s'abstenir. La question est alors, comment la poursuite de la position de Washington sur Cuba? Nous attendons toujours le développement politique des États-Unis après l'élection du président en novembre. Si le Parti républicain réussit d'occuper le gouvernement et Donald Trump devient président, très probablement la politique de Washington envers la Havane retourne à sa position d'origine, sévèrement fixée pour soutenir la mise en œuvre de l'embargo contre Cuba. Cher ami, c'était le commentaire.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Cher ami, nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui, le 28 octobre. Premièrement, le 28 octobre 1918, la Tchécoslovaquie était libre de l'Autriche-Hongrie. La Tchécoslovaquie était un pays à l'Europe centrale de 1918 au 1992. Après la dissipation du pacte de Varsovie et en même temps avec les vents du changement en Union soviétique avec Glasnost et Perestroïka, enfin la Tchécoslovaquie s'est séparée. Le pays était séparé pacifiquement en deux États jusqu'à présent, à savoir la République tchèque et la Slovaquie, par un divorce de velours ou soi-disant révolution de velours. Ensuite, le 28 octobre 1928, la déclaration du serment des jeunes. Le serment des jeunes est une preuve authentique que le 28 octobre 1928, la nation indonésienne est née. Par conséquent, toutes les personnes indonésiennes commémorent le 28 octobre comme jour de la naissance de la nation indonésienne. Basé sur l'esprit de l'indépendance, les jeunes de diverses ethnies se sont réunis à Jakarta, à gage d'un esprit de lutte pour la liberté, à travers le serment des jeunes, à savoir avoir une nation, la nation d'Indonésie, avoir une patrie, la patrie d'Indonésie, et avoir une langue, la langue indonésienne. Le processus de la naissance de la nation d'Indonésie est le fruit de la lutte du peuple pour des centaines d'années opprimées sous la domination coloniale. Cela favorise alors l'oppression des jeunes à ce moment-là, qui sont déterminés à élever la dignité de la nation indonésienne. Cette détermination devient l'engagement de la lutte du peuple indonésien et finalement accéder à l'indépendance le 17 août 1945. Le dernier, le 28 octobre, 2001. La découverte d'Homo floresiensis à l'île Flores. Homo floresiensis, ou homme de Flore, surnommé Hobbit, est le nom donné par un groupe de chercheurs pour les espèces du genre Homo, qui qui a un petit corps et un petit volume du cerveau, sur la base des restes corps qui n'ont pas durci complètement, de 9 individus qui ont été trouvés à Liangboa, l'île Flores, en 2001. Les 9 restes osseaux ont montré que la plus haute stature est environ 100 cm. Les anthropologues de l'Australie et de l'Indonésie, de l'équipe combinée d'Australie et d'Indonésie, donnent des arguments en utilisant une variété de caractéristiques, à la fois la taille du crâne, la taille des os, état de squelette fossilisé, ainsi que le reste des conclusions des os d'animaux et des outils dans les environs. Cette série de cadres est estimée à venir il y a 94 000 à 13 000 ans. Liangboa, où ont découvert des restes de squelettes, depuis la période coloniale devient une place d'excavation paléontologique et de l'archéologie. Jusqu'en 1989, il a été constaté de nombreux squelettes d'Homo sapiens et de divers mammifères comme les éléphants stégodons, des lézards ainsi qu'un gros rat qui deviennent leur nourriture. En outre, on a également trouvé des outils de pierre tels que des couteaux, des pioches, des poings de flèches, le charbon de bois et d'eau brûlée qui indiquent le niveau de la civilisation de ses habitants. Les nouveaux résultats de recherche archéologique étaient annoncés le 28 octobre 2004 qu'on a trouvé 9 fossilisés ou hobbits. L'invention fait la grotte Liangboa très intéressante d'être visitée par les touristes. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers amis, nous continuons notre émission avec la mise au point et en petit titre, l'Indonésie et l'Australie renforcent la prévention contre le terrorisme. Le ministre australien des Affaires étrangères, Julie Bishop, a fait une visite de courtoisie au président Joko Widodo au palais présidentiel à Jakarta le 26 octobre 2016. Après un entretien avec le président Joko Widodo, le ministre Julie Bishop a dit « L'Australie et l'Indonésie s'engagent de renforcer la coopération bilatérale aux divers secteurs. » L'un des sujets discutés dans cette réunion était la coopération dans la prévention contre le terrorisme et l'extrémisme. Ce sujet était précédemment discuté par Joko Widodo et le premier ministre australien Malcolm Turnbull au milieu du sommet de l'ASEAN à Vientiane, Laos, le 4 septembre dernier. Julie Bishop a dit « Les deux pays veulent continuer d'intensifier la coopération dans la prévention contre le terrorisme et l'extrémisme. Les deux pays partagent également des informations et des renseignements pour protéger leurs citoyens contre le terrorisme. En outre, les deux parties ont également discuté du retour des combattants terroristes étrangers dans le pays d'origine qui doit être prévu en maintenant la sécurité nationale. Bishop a souligné la prévention contre le terrorisme deviendra également un sujet qui sera discuté lors de la visite du président Joko Widodo à Australie en novembre. Selon Bishop, en plus de la prévention contre le terrorisme, l'Australie souhaite de coopérer dans le domaine du commerce et de l'investissement. Elle a souhaité que les bonnes relations entre l'Indonésie et l'Australie maintenues. Il y a quelques mois, le président Joko Widodo et le premier ministre australien Turnbull se sont engagés à continuer à établir des relations et la coopération étroite. Cependant, dans l'entretien entre le ministre coordinateur de la politique, de la loi et de la sécurité, Wiranto, et le ministre Julie Bishop, le mercredi dernier à Jakarta, ils ont discuté sur la sécurité nationale, la prévention contre le terrorisme étant fait à partir de lutte à Bali et sa continuation. Outre cela, Wiranto a dit que les deux parties ont discuté de la position d'Indonésie vers la mer de Chine méridionale. Selon Wiranto, l'Australie a aidé l'Indonésie à lutter contre le radicalisme et le terrorisme dans l'écrasement du groupe terroriste Santoso. En outre, Wiranto espère qu'il y a le transfert de technologie entre l'Australie et l'Indonésie afin que chaque pays de la région peut être indépendant et bien travailler ensemble dans la lutte contre le terrorisme qui ne connaît pas de frontières. C'était la mise au point.
La valeur d'investissement indonésienne flambé de 106 en 2015 jusqu'à 91 en 2016. Cette augmentation a brisé le record du monde parce qu'il n'y a aucun pays dans le monde en un an pouvait dépasser 15 niveaux. Cela a été déclaré par le chef du Conseil de coordination des investissements au BKPM, M. Thomas Lembong, dans le communiqué de presse jeudi à Jakarta sur la réalisation d'investissements du troisième trimestre depuis juillet jusqu'à septembre 2016. Mais selon Thomas Lembong, le président Joko Widodo n'est pas satisfait de cette augmentation parce que l'Indonésie est le grand pays. Thomas Lembong a déclaré que l'Indonésie devait travailler plus fort pour que la valeur de l'investissement de l'Indonésie puisse plus progresser significativement. La réalisation de l'investissement en Indonésie de janvier jusqu'à septembre 2016 a atteint 453,4 trillions rupiah et a augmenté de 13,4% par rapport à la même période en 2015. Et la réalisation des investissements étrangers en hausse de 10,6% ou 295,2 trillions rupiah. L'augmentation de la réalisation des investissements de janvier jusqu'à septembre 2016 a eu un impact positif sur l'absorption des main-d'œuvre de 960 041 personnes. Le ministre indonésien de la Défense, M. Ria Mizar Triakudu, a déclaré que l'Indonésie et l'Australie voulaient renforcer les relations militaires dans une réunion 2+2 à Bali le vendredi. Il a déclaré à Jakarta jeudi que le ministère de la Défense de l'Australie lui a invité à visiter la base militaire dans la ville de Darwin pour démontrer l'ouverture de l'armée de chaque pays. Selon Ria Mizar Triakudu, il va discuter avec l'Australie sur la question des pays qui soutiennent la Papouasie de se séparer afin de ne pas interférer les uns avec les autres. Il ne refuse pas si l'Australie invite à faire des exercices militaires conjoints pour anticiper les menaces de sécurité dans la région et dans le monde. L'Indonésie a également mener des discussions avec la Malaisie et les Philippines afin de faire face à la menace qui pourrait survenir dans la mer de Sulu. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le gouvernement de Joko Widodo et Yusuf Kalla a déclaré son engagement à développer l'Indonésie à partir de la périphérie. L'engagement est montré avec le programme de développement Les îles les plus extérieures. Le ministre de l'Intérieur, M. Cahyokumolo, a déclaré à Jakarta jeudi, au cours des deux dernières années, il y avait 13 petites îles à l'extérieur qui sont déjà développées. Selon lui, avec le développement des îles extérieures, l'Indonésie comme un État unitaire est vraiment capable de se connecter à partir de l'extrémité ouest à l'est et du nord au sud. L'attaché de presse de l'ambassade américaine en Indonésie, John Johnson, a déclaré qu'environ 15 entreprises et les entrepreneurs américains participeront au forum et à l'exposition de la défense indonésienne qui aura lieu de 2 au 5 novembre. John Johnson a déclaré jeudi à Jakarta qu'il y aurait un exercice militaire conjoint entre l'Indonésie et les États-Unis la semaine prochaine à Manado. Ce sont les premiers exercices de la force aérienne conjointe entre les deux pays. L'Indonésie et les États-Unis vont voler l'avion F-16 ensemble. Les États-Unis apporteront le F-16 et F-18 dans l'exercice. Selon John Johnson, un navire militaire américain ne prendra pas de navire de guerre à la visite et l'exercice militaire conjoint en Indonésie. Le directeur de la technologie et de l'industrie de la défense du ministère de la Défense, le général de brigade Jean-Peter Athey, a déclaré que 844 entreprises nationales et étrangères participeront à cette activité. Et 573 entreprises étrangères ont confirmé leur présence. 271 sont les entreprises indonésiennes. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Ce sont toujours des infos fraîches qu'on vous propose à la Voix de l'Indonésie. Parce que maintenant, le magazine culturel est suivi par l'Indonésie en couleur.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tour de beauté en Indonésie.
Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission avec le magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous invitons pour visiter Malang afin de voir la beauté de la plage Batu Bengkung. Donc, restez toujours avec nous. Le service mondial de Radio République Indonésie, La Voix d'Indonésie. Malang est l'une des villes à Javaès appelée la ville d'une mille plages. L'une d'entre eux est la plage Batu Bengkung qui attire beaucoup de touristes. Cette plage est située dans le village Gajarjo, sous-district Gedangan, en région Malang. La plage est nommée plage Batu Bengkung parce que sur la plage il y a des rochers très longs entre deux collines qui résistent au martèlement des vagues. La plage n'est pas trop loin de la ville de Malang. On nécessite environ 2 heures de route. Faisant face directement avec l'océan Indien, font cette plage avoir des vagues malignes. Par conséquent, ici, c'est interdit de se baigner. À certains moments, les vagues féroces de cette plage seraient rompues par une rangée de récifs qui longe la côte. L'eau de mer qui passe par une série de corail va certainement se coincer dans le bassin de corail. Cette condition crée un bassin de coraux rempli d'eau ressemble à une piscine. L'une des particularités de la plage est la pierre incurvée sur la plage. La pierre incurvée devient icône gagée de la plage Batu Bengkung. Vous pouvez aussi trouver une colline où vous pourrez profiter de la beauté des plages environnants plus clairement. Vous pouvez monter et marcher environ 15 minutes sur une route étroite qui est située sur la rive ouest de la colline. Ici, vous devez marcher très attentivement car il n'y a pas d'installation de sécurité à la périphérie de la colline. Lorsque vous atteignez les falaises, vous ferez un paysage très exotique sous la forme d'étendue de pierres allongées et flambées vers l'océan bleu. À la plage Patubengkung, vous pouvez également regarder le superbe coucher de soleil, car cette plage fait face directement à l'ouest. Par conséquent, avant le coucher du soleil, la plage est visitée par de nombreux touristes qui veulent voir la beauté du coucher du soleil. Beaucoup de gens préfèrent de mettre en place le camp autour de la côte. Pour entrer à la plage Patubengkung, on doit payer 5000 rupiah. Le prix ne comprend pas le stationnement. Ici, chaque véhicule entrant sera facturé 5000 rupiah et 10000 rupiah pour les véhicules qui vont rester. Quant à vous qui veulent camper, il n'y a pas de frais supplémentaires. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci d'être fidèle avec nous. À demain. Cette année, 191 pays ont soutenu l'annulation de l'embargo économique qui dure depuis 56 ans. Les couleurs, un programme sur les informations actuelles. Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleurs. Aujourd'hui, le 28 octobre, l'Indonésie commémore la 88e journée du serment de la jeunesse. Reliant à ceci, l'Indonésie en couleur aujourd'hui discute sur le jamboree des jeunes indonésiens. Chaque 28 octobre, l'Indonésie célèbre la journée du serment de la jeunesse. L'activité rappelait le peuple indonésien contre le patriotisme des jeunes hommes qui ont réussi à unir la vision nationale des différences dans les diverses facettes, mais toujours un. La vision a finalement donné naissance à un engagement national, avoir une patrie de l'Indonésie, une nation de l'Indonésie et défendre la langue unitaire indonésienne. Cet engagement national est jusqu'à présent connu sous le nom du serment de la jeunesse en 1928. Utilisant de la dynamique de la journée du serment de la jeunesse, le 28 octobre, le ministère de la jeunesse et des sports tient une grande rencontre pour les meilleurs jeunes en Indonésie, Jamboree des jeunes indonésiens, qui a lieu du 26 au 31 octobre 2016 à Palangkaraya, Kalimantan Central. L'activité du Jamboree cette année est suivie par 1490 jeunes de 34 provinces dans toute l'Indonésie. Chaque province envoie 15 jeunes. D'ailleurs, suivis par 15 jeunes de chaque province, cette activité cette année est aussi suivie par les jeunes de 14 régions et villes en province Kalimantan Central. Selon le ministre de la Jeunesse et des Sports, Imam Nahrawi, les participants vont rester dans des tentes et d'interagir avec d'autres participants au cours de la mise en œuvre du Jamboree. Les participants du Jamboree participent également de diverses activités visant à encourager l'accroissement des connaissances, la capacité et la créativité, ainsi que déguiser la sensibilité et le souci des autres. En plus du Jamboree, afin d'ajouter l'excitation de l'exécution de la commémoration de la 88e journée du serment des jeunes, on organise aussi l'exposition technologique des jeunes, l'exposition des produits créatifs des jeunes, le carnaval des jeunes indonésiens autour de la ville Palangkaraya, la représentation d'art et de la culture, les sports traditionnels, le sport ensemble et la concurrence du gymnastique créatif régional. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur pour ce soir.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Passons maintenant diversement avec la couleur de la musique indonésienne qui va vous plaire.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Chers amis, la voix de l'Indonésie dans quatre coins du monde, voici l'émission en langue française dans la magazine de musique édition de vendredi. Vous pouvez aussi écouter notre émission, cette magazine, sur l'audio streaming www.voi.co.id ou l'application RRI Play sur votre gadget ou portable. Et bien sûr, avec l'écoute sur la fréquence 9525 kHz. Chers fidèles amis, pour ce soir, on présente le genre de musique de dangdut comme chaque vendredi. Et ce soir avec la chanteuse Mega Mustika. Alors, pour ouverture de notre rencontre, écoutez d'abord une chanson de Mega Mustika intitulée Mengalah. Bonne écoute.
Haruskah aku mengalah?
Chers amis, Mega Mustika est née au 23 juin 1974. Elle a du talent comme chanteuse. De plus, elle commence sa carrière aux années 80 et 90. Son esprit dans le monde musical de Dangdut est très grand. Alors, ses chansons sont populaires comme Hitam, Bukan Putih, Bukan Yang Pertama, etc. Quand elle est populaire, elle s'est mariée avec le chanteur Johnny Iskandar. Bon, chers amis, allez écouter encore la chanson de Mega Mustika intitulée « Hitam Bukan Putih ».
Thank you.
Cher Fidel Sami, vous savez, le phénomène de rythme de dangdut était énorme, car auparavant, ce genre est pour le niveau populaire. Mais grâce à l'innovation, presque chaque statut social aime le dangdut. Ici, aux années 80. Et puis, vous avez la présence de jeunes chanteurs de dangdut comme Iis Dahlia, Irma Ilfiana, Johnny Iskandar, y compris Mega Mustika elle-même, à cette époque, a renversé l'image de dangdut au public indonésien. Et pour Mega Mustika, avec la chanson Bukan yang pertama, composée par Leo Waldi, elle est si célèbre. Bon, chers amis, c'était le magazine de musique avec la chanteuse Mega Mustika. Et avant de vous quitter, allez encore écouter les deux dernières chansons de Mega Mustika intitulées Bukan yang pertama et Cinta seujung kuku. Bon écoute et au revoir.
toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Il y en a des différents tous les jours, alors n'oubliez pas de nous rester fidèles. Donnez-nous des suggestions ou envoyez-nous de vos nouvelles, vous qui nous écoutez des quatre coins du monde. C'est la fin de notre émission en français de la Voix de l'Indonésie. Rendez-vous demain, mes mères, mes fréquences. À bientôt et au revoir.
Radio République Indonésie, Service international, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, Service international, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id. Ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésie, Jalan Medan Merdeka Barat 4S5, Jakarta, ou PO Box 1157, Jakarta 1011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.